pour investir, l'actu du patrimoine.
Allez, 11h31, on est de retour dans Tout pour investir en direct sur BFM Business, à la télé, à la radio, sur Internet et puis les podcasts, évidemment. C'est l'heure de l'actualité de votre patrimoine et on est de nouveau avec Christian Fontaine qui nous a retrouvés. Rebonjour Christian.
Rebonjour Guillaume.
Directeur de la rédaction du Revenu, merci d'être avec nous. Alors, on disait tout à l'heure, petit parfum de scandale du côté du PEL, du plan épargne logement. Je la fais courte et vous allez nous expliquer tout ça. Depuis le 1er mars 2011, pour faire court, tous les PL qui ont été ouverts seront automatiquement fermés au bout de 15 ans. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Bah, vous faites les comptes, 2011 plus 15, ça va nous emmener à mars 2026. Qu'est-ce qui se passe à partir de mars 2026, Christian?
Ce qui se passe à partir de mars 2026, c'est qu'effectivement, vous avez 36% des PEL, pour être très précis, source Banque de France, donc c'est du sérieux, qui progressivement vont être fermés automatiquement. Alors attention, 36% des PEL, ça représente quand même plus de 1,1 million de titulaires. Quant au montant des encours, on parle quand même de 93 milliards d'euros. Donc les chiffres sont colossaux, les sommes sont très très élevées. Et alors pourquoi ce magot sort un tout petit peu le souffle? Parce que vous avez donné la date.
Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Oui, voilà.
La date pivot, c'est le 1er mars 2011. Non, effectivement, ça remonte 15 ans en arrière. Alors, pourquoi cette date-là? Parce qu'à partir de cette date-là, en fait, les PEL ouverts depuis cette date-là ont une durée de vie limitée à 15 ans. Et avant, ils avaient une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que si vous aviez un PEL d'ancienne génération, même encore aujourd'hui, qui rapporte du 4 ou 5% par an, vous pouvez le garder à vie. Donc, c'est véritablement jackpot, puisque en fait, c'est un placement sans risque, avec effet cliquet. Donc, c'est un placement surtout à conserver. Et pour... alors, ce placement, effectivement, PEL, coûtait à l'époque très cher à un certain nombre d'établissements financiers qui ont obtenu donc une modification de la législation.
Ah, donc c'est le lobbying des banques qui a payé à l'époque, c'est ça qui vaut.
Ce qui est sûr, c'est que c'est l'épargne populaire qui est victime de cette évolution législative.
Oui, on va dire
et
comme
que
ça.
La décision a été prise il y a 15 ans et c'est uniquement maintenant que les victimes vont payer l'addition. Donc très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que progressivement, à compter de mars 2026, plus de 1 million de PEL vont arriver à échéance, donc ils vont être transformés automatiquement en un compte sur livret qui sera imposé et rémunéré à un taux fixé par la banque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'épargnants ont des PEL rémunérés jusqu'à 2,5% et que si demain, par exemple, ils veulent transférer cet argent sur un livret A, eh ben, ils vont perdre de mémoire quelques 40% de rémunération. Si demain, leur PEL est clôturé, ils ouvrent un nouveau PEL, là, ils vont perdre 30% de rémunération. Alors, bien sûr, ils auront d'autres possibilités. Soit ils conservent le compte sur livret au taux qui sera proposé, au taux bancaire qui sera proposé par leur établissement. Mais de vous à moi, je ne suis pas certain que ça soit extraordinaire. Après ça, il y aura deux autres possibilités. On parle quand même de 1,1 million d'épargnants.
C'est considérable.
Il y aura l'autre possibilité, ça sera de placer sur une autre famille de placements. On pourrait faire un arbitrage en faveur de l'assurance vie, en faveur de la bourse, en faveur du compte titre ordinaire, en faveur d'un plan d'épargne retraite, voire on pourra aussi consommer cet argent. Les Français ont un des taux d'épargne les plus élevés au monde. On est autour de 19% du revenu disponible qui est épargné. Oui. Attention tout de même, la moitié correspond à peu près au remboursement du capital des prêts immobiliers. Mais c'est quand même énorme. Bon, et il faut, je dirais, lorsqu'on place bien son argent, l'un des intérêts aussi, ça consiste à utiliser, je dirais, les gains donc, lors de cette épargne pour se faire plaisir en famille, avec des amis ou acheter des biens d'équipement. Non, ce qui est très important quand même à voir, c'est que vous avez 1,1 million de Français qui vont, à compter du mois de mars 2026, devoir prendre une décision sur, je dirais, l'encours de leur PEL qui va être clôturé automatiquement. La mauvaise nouvelle quand même, c'est qu'ils vont devoir, on leur offre pas le choix, le PEL est clôturé automatiquement et ils vont devoir, la plupart n'auront pas le choix, seront obligés de se positionner sur des placements qui sera moins attrayants pour eux. C'est là où l'évolution de cette législation dans la loi de finances 2011, c'est pour ça qu'elle sent que ce magot de 93 milliards sent quand même un tout petit peu le soufre.
Qu'est-ce que je fais? Si je suis concerné, par exemple, j'ai ouvert, je ne sais pas, moi, en mars ou avril 2011, ce PEL, donc je vais vite être rattrapé par la patrouille. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contacte mon banquier? Qu'est-ce que je fais? Alors, concrètement,
très concrètement, pour savoir lorsque vous regardez le patrimoine des Français, et souvent, nous, au revenu, on est très proche de nos lecteurs, on va chez eux, en fait, que remarque-t-on? On remarque que dans la plupart des patrimoines, il y a trop de liquidités et il n'y a pas assez d'actions. Donc effectivement, on réfléchit sur à quoi j'ai envie d'utiliser cet argent. Pourquoi pas, si on décide de le conserver placé, pourquoi pas oser un minimum la bourse ? Il n'y a qu'un Français sur six environ qui est investi en bourse. Oui. Donc pourquoi pas utiliser cet argent pour se positionner sur un placement qui rapportera bien davantage dans la durée. Certes, il y a une prise de risque, mais à partir du moment où on agit avec méthode, notamment on rentre progressivement sur les marchés, à partir du moment où on a plusieurs années devant soi, je dirais que le risque est très très limité. En bourse, c'est très simple. Plus votre durée d'investissement est longue, plus la probabilité d'avoir un gain élevé ou de perdre de l'argent, gain élevé augmente et perdre de l'argent diminue. Donc, pourquoi pas, tout à l'heure, on parlait de la nécessité de diversifier à l'international ses portefeuilles, on expliquait que le risque France augmentait. On peut être patriote et investir à l'international. Pourquoi pas investir dans un placement très tendance, donc un fonds indiciel coté en bourse, un ETF pour les spécialistes qui réplique par exemple l'Eurostock 50. Dans l'Eurostock 50, vous avez des très belles valeurs, ASML, SAP, Siemens, Allianz, etc. Ouais. Et donc ça diversifie au niveau de la zone euro sans risque de change votre portefeuille actions et ça vous permet éventuellement de mettre un premier pas en bourse. Donc pourquoi pas utiliser cet argent et mieux placer cet argent. Tout à l'heure, on débattait avec Félix, le fait des inégalités des Français à l'égard de l'épargne. C'est énorme. On parle des inégalités de revenus. On parle des inégalités de patrimoine.
Il y a les Français qui peuvent épargner, ceux qui ne peuvent pas.
On parle aussi des inégalités au niveau du rendement de l'épargne. L'épargne populaire, elle est rémunérée au taux du livret A, 1,7% de mémoire. L'épargne des plus aisés, qui peuvent se permettre de bloquer une partie de cet argent sur le long terme, peut rapporter du 10, 12, 13%. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que tout le monde recherche des gains de pouvoir d'achat. On peut gagner en pouvoir d'achat d'une façon qui est peu exploitée aujourd'hui, c'est en plaçant mieux. Oui. Et en plaçant mieux, c'est notamment en plaçant à un taux plus élevé. Et il n'y a pas de miracle aujourd'hui sur les marchés financiers. Si on veut gagner plus avec son épargne, il faut accepter de prendre un minimum de risque. Mais la bourse n'est pas le casino. Si on agit avec méthode, on peut gagner plus en limitant les risques.
Il faut mettre ce premier pied, comme vous disiez tout à l'heure, mais vous rappeliez aussi le niveau du taux d'épargne record à l'heure actuelle. Oui, effectivement, le climat actuel ambiant ne se prête pas forcément à mettre ce premier pied en bourse sur les marchés, là, Christian.
Alors, c'est malheureux. Le climat ambiant incite à épargner sur des produits sans risque parce que les Français ont peur pour leur avenir. Ils mettent de l'argent de côté, notamment pour payer, parce qu'ils anticipent une hausse des impôts. J'aurais tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre.
Comment est-ce qu'on franchit le cap psychologiquement, Christian ?
Quand on franchit le cap, probablement, on conserve 80 ou 90% de son épargne sur des placements sans risque. Oui. Donc là, c'est pour se rassurer sur l'avenir. Et on investit que 5 ou 10% sur les marchés financiers. C'est même si en France, dans un pays où la protection sociale est aussi développée, même si demain vous perdez votre emploi, il y a des tas de coussins d'amortisseurs. Donc vous n'avez jamais besoin de la totalité de votre épargne, même en cas d'accident de la vie. Donc vous faites deux poches dans votre épargne. Une poche pour l'épargne de précaution et une poche de rendement pour le long terme qui, en fonction de votre situation personnelle, au début, peut très bien ne représenter que 2, 3, 4, 5% de l'ensemble de votre épargne, mais vous allez mettre un pied en bourse. Et en agissant avec méthode, je dirais que vous allez profiter de gains de pouvoir d'achat qui vous seront très utiles par ailleurs. Donc, on y va par étapes.
Bon, on y va par étapes. Voilà, conclusion. Certains vont devoir prendre une décision dans les prochains mois, s'en inquiéter. Ça sera peut-être effectivement un mal pour un bien, l'occasion de se reposer certaines questions alimentaires, effectivement. Voilà. Donc on rappelle, on parle de tous les PL ouverts à partir du 1er mars 2011. Tous les PL ouverts antérieurement, ça ne change rien, on est d'accord.
Alors, les PEL ouverts antérieurement ont une durée de vie illimitée. Donc vous pouvez très bien, c'est du cas par cas, le clôturer ou le conserver ouvert en fonction de votre situation personnelle et de votre intérêt, s'il répond ou pas à vos besoins en termes d'épargnants. Mais tous les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, effectivement, je vous confirme, ont une durée de vie de 15 ans maximum. Donc à compter des 15 ans, le PEL est transformé en un compte sur livret fiscalisé. De toute façon, votre banque va certainement vous avertir. Oui. On parle quand même de 1,1 million d'épargnants concernés par une clôture du PEL entre 2026 et 2030. On parle tout de même de 93 milliards d'euros d'encours qui vont être réalloués, oui, soit vers la consommation, soit vers d'autres placements. Donc on parle d'un nombre très important d'épargnants, d'encours considérables. Et effectivement, vous avez raison, c'est le moment de se plonger dans ces placements, de regarder si vous n'avez pas trop de liquidités, de vous interroger, est-ce que vos placements répondent à vos besoins en tant qu'épargnant. Si vous avez des sommes considérables, et c'est le cas de beaucoup de Français, hein, on dit toujours sur les livrets, il faut garder l'équivalent de 2 ou 3 mois de revenus. Mais lorsque vous regardez de près, les Français ont souvent beaucoup plus, un an de revenus sur des livrets défiscalisés. C'est beaucoup trop, et c'est pénalisant. On parle de la perte de pouvoir d'achat sur les salaires ou sur les retraites liées à l'accélération de l'inflation, et jamais l'accélération de l'inflation de certaines années a coûté des dizaines de milliards d'euros aux épargnants. Donc là, le conseil ce matin sur votre antenne, prenez en charge votre épargne et regardez un petit peu ça de près, notamment à l'occasion de la clôture automatique de votre PEL à compter de l'année prochaine.
Et soyons patriotes éventuellement pour aller investir tout ça dans les entreprises françaises.
Bien sûr, on commence par les entreprises françaises et ensuite on diversifie à l'international.
Vous avez bien noté. Merci Christian Fontaine, le directeur de la rédaction du Revenu, avec nous sur BFM Business. Merci Christian.